alto en el clima y cerca de Natal. Y en el fin totalement séquito.
Moi, j'ai fait une compagnie au Casablanca. Je pense que en combinant les deux statuts de président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le gouvernement congolais a annoncé le week-end dernier la construction d'un poste douanier à Lufu, à la frontière avec l'Angola, dans le territoire de Songololo. Le gouvernement Matata veut mettre fin à la fraude et à l'évasion fiscale à ce poste frontière. Certains observateurs estiment qu'il y a là l'intention manifeste du gouvernement d'interdire l'importation des produits en provenance de l'Angola. Une autre opinion encourage plutôt les autorités dans cette démarche pour canaliser les recettes générées dans ce commerce vers les caisses de l'État. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez réagir en direct dans cette émission en composant les 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir vos messages sur notre page Facebook. Dimandango et Julie Pesabongonda réalisent cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungenbo sous la supervision de Leonard Moulamba. Bienvenue à toutes et à tous.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en son hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en parle. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous allons ouvrir ce débat avec Maître Likonza qui est à Kinshasa. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, en attendant que nous retrouvons notre invité dans ce studio, Michel Sommoy, analyste économique. Maître Likonda, vous avez suivi l'actualité comme nous. Le gouvernement congolais a annoncé la construction d'un poste douanier à Lufu dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale à ce poste. Comment réagissez-vous?
Bien, d'abord, je commence par donner une précision de taille. Cette mesure ne vient pas pour lutter contre la fraude fiscale dans ces postes, étant donné que le gouvernement n'avait pas encore pris les précautions pour installer un poste dans ces coins-là. Mais il y avait bien sûr un problème d'évasion fiscale que le gouvernement a décidé de résoudre. Et moi, je pense que cela relève de l'obligation de ce gouvernement, parce que nous le savons tous que chaque année, le gouvernement élabore un budget, lequel budget est voté par le Parlement. Le Parlement donne l'autorisation au gouvernement d'exécuter ce budget. Et le budget est fait de dépenses et de recettes. Et les recettes sont mobilisées par le gouvernement. Et donc, tout chef du gouvernement a l'obligation de rechercher les moyens pour financer l'action de son gouvernement en rapport avec les lignes reprises dans le budget. Eh bien, ça fait longtemps que le gouvernement a pu observer la situation dans ces coins de Lufu. Mais aujourd'hui, s'il y a une telle mesure, moi je crois qu'on a déjà mené des études pour voir si et seulement si, à travers les postes douaniers, on pourra réaliser quelque chose de très important pour contribuer au financement du budget. Et bon, par rapport à ce qui va se passer sur le terrain, en tout cas, c'est nos frères congolais qui font le trafic Lufu, Kinshasa, RDC Angola, ne puissent pas s'inquiéter parce qu'il ne s'agit pas d'une servitude, mais plutôt d'un devoir du gouvernement. Et parce que les activités commerciales sont aussi assujettis au paiement des impôts, des taxes, des redevances et autres droits. Et bien, maintenant, si le gouvernement a décidé de le faire, il faudrait mettre aussi le garde-fou pour qu'il n'y ait pas de tracasserie au niveau de la frontière. Si les douaniers, les agents de la douane qui seront commis à ce travail-là ne puissent pas sortir de leurs limites pour commencer à matraquer leurs frères congolais. Et aussi, du côté de l'Angola, nous avons poursuivi plusieurs fois que nos frères qui traversent là-bas payent des taxes, payent des impôts. Également, les Congolais qui viennent chez nous, quand ils rentrent avec leurs biens, ils payent également des taxes chez eux. Et donc, ils ne restent que chez nous, où le gouvernement ne s'intéressait pas beaucoup plus à la situation des loups. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est vraiment une mesure qui tombe à point nommé. Mais aussi, comme au niveau des frontières, il y a les agents de l'ordre, notamment les policiers, les éléments de FRDC, ils n'ont pas le pouvoir de lever l'impôt ou de faire payer les taxes dans le cadre des douanes. Ils doivent vraiment se limiter à leur mission de protéger les personnes et leurs biens, mais aussi à préserver la sûreté de l'État. Puisque si les agents de l'ordre s'impliquent dans cette opération-là, on risquerait de revenir encore à cette émission.
Oui, maître Likonza, c'est bien beau, tout ce que vous dites là, mais il y a certains observateurs qui craignent aujourd'hui, nous prenons la part quand même de certains commerçants qui sont là, qui craignent aujourd'hui, tout en se référant à cette phrase qui dit que la douane à RDC c'est la plus chère, formaliser la fiscalisation de l'informel dans cette partie du pays, et donc elle craint que cela puisse avoir un impact négatif sur la marge bénéficiaire que font ces commerçants, et aussi deuxièmement, ça pourrait réduire un peu le rythme d'importation.
Bon, la fiscalité ne connaît pas l'informel, donc ne tient pas compte de l'informel. L'administration fiscale cherche là où il y a un bénéfice, un profit. Que les commerçants soient dans l'informel ou dans la légalité, dès lors que ce bénéfice est réalisé, l'administration fiscale intervient. Et donc, que nos frères puissent comprendre, mais ici, ils sont dans l'informel, mais en tout cas, au regard de la fiscalité, ils sont tenus à acquitter les impôts et taxes dus à l'État. Et donc, là où il y a un bénéfice, l'administration fiscale intervient. Peu importe la nature du commerce.
C'est sans état d'âme.
Informel ou formel, peu importe. Ce qui importe pour l'administration fiscale, c'est les bénéfices. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut pas beaucoup fustiger la décision du gouvernement, mais seulement que l'on puisse aussi tenir compte de la capacité contributive de chaque commerçant. Il faut parler au-delà de ce qu'un commerçant peut payer par rapport à ce qu'il gagne comme à ce qu'il réalise comme bénéfice à travers ces trafics-là.
Merci beaucoup, Maître Likonza, d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué dans ce débat. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour. Je voudrais aussi saluer toutes les auditrices qui ont été de la radio Capille et au même moment, vous remercier une fois de plus pour cette émission.
Voilà. Alors, vous avez suivi Maître Likonza qui est tout de même favorable à cette décision du gouvernement de vouloir construire un poste douanier à Loufou, à la frontière avec l'Angola, dans les territoires de Sangolo, où nous avons observé depuis quelques temps donc cet engouement des commerçants qui vont, en fait, avec ces marchés qui se tient tous les vendredis, donc une fois, toutes les deux semaines. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement entre dans les jeux pour pouvoir, disons, construire un poste. Lui, il est favorable. Quel est votre point de vue, Sylvain?
En fait, moi, je pense d'abord que cette question soulève toutes les problématiques de la gouvernance responsable des douanes congolais. Puisque vous allez d'abord comprendre que la question relative à la gestion des douanes au Congo pose des sérieux problèmes. Vous avez suivi tantôt celui qui a parlé à relever la question de la cherté de notre douane. Ça, c'est un des grands problèmes. Et puisque vous parlez du territoire de Sangolo, je ne vais pas seulement m'interviser là-bas. Je suis à Ituri, je parlerai plus de Ituri. Puisque, comme je t'ai dit, je parle d'abord du postulat que cette question soulève toutes les questions relatives aux douanes congolaises. Qu'est-ce que je dirais? Vous savez d'abord, le premier problème, c'est que nous avions vu une complaisance dans le comportement du Premier ministre lorsqu'il a effectué une mission pour contrôler ses postes douaniers. Pourquoi? Et comme on avait dit un jour sur Dialogue entre Congolais, qui est aussi notre cher Radio Kapi, ça veut dire que cela était un travail du ministre chargé des Finances, avec ses inspecteurs chargés des questions financières au sein de la République. Mmh. Ça veut dire si on sait qu'à un poste, il y a déjà un problème de compte, n'est-ce pas, et l'évasion fiscale, comme vous l'avez dit, je pense que certaines mesures devraient être prises en amont. Ça veut dire quoi? On suppose qu'au niveau du ministère, il y a un service qui s'occupe de l'inspection des activités au sein des douanes congolaises. Je crois que ce qui manque à ce gouvernement est principalement au ministère. Alors, dans cette question-là, moi je préconise deux choses seulement à l'interne, puisque je vais parler aussi de questions liées au reste du monde, à ce qui concerne les machines relatives aux douanes. Qu'est-ce que je pense? Monsieur le journaliste, si vous voyez bien, le personnel qui travaille à la DGDA, vous devez évaluer, je vous demande de connaître un des tiers des richesses qu'ils ont, il y a un grand écart avec ce qu'ils touchent comme salaire. Cela peut déjà provoquer, n'est-ce pas, susciter un doute auprès d'un observateur avisé pour le fait de comprendre qu'il y a une évasion fiscale, puisque non, une évasion fiscale, je ne sais pas.
Oui, non, Sylvain, pas nécessairement. Ça relève de la question de l'organisation de chacun. Selon ce qu'il gagne, il peut s'organiser dans la vie. On ne peut pas directement lier ça à la fraude.
Ah, et deuxième chose, monsieur Lezman, parce que je voudrais que nous puissions nous comprendre. Deuxième chose, vous savez que ça fait longtemps, on n'a pas sanctionné les antifraudes. On n'a pas sanctionné. Vous avez suivi le plan de machine, le ministre est passé, il a sanctionné. Mais on ne peut pas aller notre réponse, ça ne se passe pas. Qu'est-ce que je donne comme solution? Je pense que tout à l'heure, la RDC ne peut pas se réunir sur la scène des trafics internationaux. Il y a question, comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, de signer des accords, de trafic frontalier gratuit et commun entre les États frontaliers. Vous avez vu l'Union européenne, la question des droits des douanes a disparu et ça a provoqué un petit peu le développement au sein de l'Union européenne. Je pense que pour des raisons évidentes et pour cette question de fraude et de l'évasion fiscale, il va falloir que les États africains harmonisent. C'est pas pour rien, il y a des droits au hasard. On doit harmoniser, n'est-ce pas, les trafics transfrontaliers. Et moi, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Voilà mon point de vue.
Merci beaucoup, Sylvain, 081-890-6315, pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Michel Sommoy, notre analyste économique, qui, en fait, éclaire parfois la lanterne des uns des autres autour de thématiques que nous abordons relatives à l'économie. Michel Sommoy, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous venez là de suivre deux auditeurs que nous avons pu proposer déjà au début de cette émission, mais la problématique du jour, c'est cette visite du gouvernement à Lufu, à la frontière avec l'Angola, dans le territoire de Sangololo, où de depuis un certain temps, on a observé cet engouement, ce territoire qui s'est érigé en centre des négoces. Les Congolais et les Angolais se retrouvent ensemble pour faire des échanges commerciaux. Alors aujourd'hui, le gouvernement a l'intention de pouvoir ériger, donc en fait, pour mettre fin à la fraude et à l'évasion fiscale constatée à ces postes frontières, construire un poste douanier. Alors, d'entrée des jeux, quelle est la réaction que vous, en tant que, ou quel est le regard que vous avez en tant qu'analyste économique?
Merci, Gilles. Lufu, c'est, me semble-t-il, cette espèce de fantôme de l'économie nationale qui refuse de mourir. Lufu, c'est l'expression de la dynamique des laissés pour compte de ces nombreux opérateurs économiques congolais qui se battent pour survivre malgré l'indifférence de l'État congolais. Nous, c'est vraiment une nébuleuse, il faut le dire, parce que c'est l'expression, ou si vous voulez, la transcription physique de ce que nous appelons couramment l'économie informelle, le secteur informel. Mais comme j'ai pu le définir pour moi, le secteur informel, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble de ces opérateurs économiques qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'État parce que simplement, ils n'ont rien à attendre non plus de cet État-là. Il est bon que le gouvernement fasse preuve de son existence et de sa présence à travers toute l'étendue de la République, par ses différents services, notamment les services douaniers. C'est très bon. Mais il est aussi mieux que le gouvernement fasse marque de sa présence en apportant son concours aux opérateurs économiques et à la société congolaise dans son ensemble. Parce que ces gens qui se battent, ils ont été condamnés à une sorte d'économie de débrouillez-vous, une économie du sauve-qui-peut, une économie de la survie.
Des activités à petite échelle.
Avec à petite échelle, parce qu'ils n'ont à l'intérieur de ce pays ni la possibilité, la chance d'accéder aux facilités financières, je veux dire au financement, au crédit bancaire, ni l'appui propre du gouvernement qui devrait jouer une sorte de rôle d'État-providence. L'État-providence est absent, les principaux opérateurs économiques qui sont supposés agir en amont pour influencer, et si vous voulez, appuyer les efforts, la dynamique interne des opérateurs locaux, n'existe pas. Alors ces gens se débrouillent, ils se battent, tant bien que mal. Mais on constate souvent que chaque fois qu'il y a une petite poche de prospérité qui tend à naître du néant, de l'effort personnel, de sacrifice humain inacceptable ou incroyable, c'est à ce moment-là que l'État se lève pour dire « je suis présent ». Non pas pour vous apporter mon soutien, non pas pour vous apporter mon appui, mais pour vous rationner, vous ravir ce que vous avez, parce que vous n'avez pas le droit d'exister sans moi. Ça, c'est injuste. Là où la chose est injuste. Avant que l'État ne pense à lever l'impôt, il est bon que l'État commence d'abord par mettre en place un cadre qui permet à l'opérateur économique de générer le revenu à partir duquel l'État peut lever l'impôt, légitimement. Mais quand l'État n'apporte aucun soutien à ces millions de chômeurs qui sont abandonnés et qui se battent malgré tout pour sortir par eux-mêmes de leur chômage, et que vous, l'État, vous voulez dire à ce moment-là tout d'un coup pour dire « tiens, il y a des gens qui font l'argent là-bas ». Mais vous ne savez pas comment ils ont pu faire cet argent. Vous ne savez pas quel sacrifice ils ont enduré pour y arriver. Vous ne savez pas combien de fois ils ont crié vers vous. Ils ont tendu la main pour vous appeler au secours. À ce moment-là, on ne vous a pas vu. Mais quand quelqu'un de l'extrême sacrifice parvient à survivre, vous surgissez comme pour l'empêcher d'exister.
Mais nous faut exister avant même la plus grande conférence que nous avons pu organiser sur les coulages des recettes. Nous faut exister avant même la conférence économique organisée par deux fois ou trois fois même dans ce pays. Nous faut exister bien avant plusieurs assises même économiques pour évoquer des questions relatives à la fiscalisation de l'informel. Ben alors pourquoi maintenant le gouvernement, est-ce qu'il s'est pris en retard?
En retard, je dirais non, mais est-ce que c'est pertinent? Écoutez, l'UFO a existé, c'est vrai, hier, mais comme un embryon. L'UFO fait preuve d'une certaine dynamique de survie. Malgré tout, il continue à progresser. Et l'UFO, en progressant, fait peur, menace les intérêts étrangers qui sont implantés au Congo, qui sont pour la plupart partenaires, justement, à l'État congolais. C'est là le problème. Parce qu'il y a des opérateurs économiques étrangers qui sont dans l'importation des principaux produits, mais il se trouve que les produits qui entrent par l'UFO sont de loin moins chers que ceux que les importateurs traditionnels, les amis, les partenaires de l'État.
Mais semble-t-il de très bonne qualité, pour ne pas citer les cas du riz, par exemple, qui est acheté à l'UFO.
Exactement. C'est ce qui se passe maintenant, que le Congolais a découvert dans ses relations, dans ses recherches, dans son combat quotidien, l'opportunité de rencontrer un marché moins cher. Cela menace ceux qui font des intérêts colossaux et qui déversent des dividendes aux gouvernants. Je suis en train d'affirmer quelque chose, je risque de ne pas avoir suffisamment de preuves, mais il y a quand même des indices. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, hier. Un sac de riz qui coûtait $16 il y a 10 ans à peu près, qui coûte aujourd'hui plus de $50, au nom de quoi? Il coûtait $16, c'était déjà trop cher à l'époque, avec la donne la plus chère du monde, qui était la nôtre. Mais qu'on soit passé quand même de $16 à $55, il faut se poser des questions, alors qu'en même temps, le gouvernement prétend avoir maîtrisé l'inflation, avoir maîtrisé le cadre macroéconomique. Mais comment peut-on comprendre qu'une bouteille d'eau qui coûte $1 aux États-Unis coûte toujours $1, même 20 ans après?
alors que là, il y a moins d'inflation. Donc, il y a un problème. Nous savons que s'ils sont passés de 16 dollars à 55 dollars, c'est qu'il y a des gens qui bénéficient de cet excès-là. Alors, ce sont ces gens-là qui se trouvent menacés par le fait que leurs partenaires vont faire des manques à gagner énormes parce que la clientèle va se tourner vers eux. Alors là, les gens qui sont au pouvoir se trouvent menacés. Ils sont poussés par ceux qui sont derrière eux ou ceux pour qui ils travaillent. Et c'est là qu'il y a un problème qu'il faut le dénoncer.
Oui, c'est un point de vue qui a été d'ailleurs partagé sur notre page Facebook avec Ghislain Luamba qui a dit que la démarche du gouvernement serait influencée au plus haut point par le lobbying des commerçants asiatiques opérant à RDC qui se voient déjà menacés par la concurrence. Voilà. Alors, mais il y a une grande question de curiosité, Monsieur Michel Somoué. Aujourd'hui, nous avons 9 frontières, si les calculs sont bons. Le cas des loups aujourd'hui n'est qu'un cas isolé, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a autant de marchés qui peuvent aussi naître spontanément à travers les pays dans les différents frontières. Alors, comment maintenant faire pour, en fait, arrêter cette hémorragie? Parce que si ça commence à Loufou, demain, on connaîtra un cas peut-être au niveau de la Tanzanie, entre la RDC et la Tanzanie, on connaîtra la même situation déjà avec la Zambie, Kasumbalesa, c'est déjà un problème. Nous avons vu l'année passée le Premier ministre descendre sur le terrain avec la suspension qui s'en était suivie avec le directeur de la douane, mais quelques temps après, il y a eu baisse sensible des recettes de l'État. On ne sait pas pourquoi, finalement, c'est paradoxal, on ne sait plus comprendre.
Oui, votre question n'est pas bonne, parce que vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter. Non, justement, il ne faut pas arrêter ça. Et on ne peut pas arrêter le naturel. Il faut laisser. Parce que l'économie nationale, c'est 1% qu'on est tous dans l'œuf, continuellement. Mais lorsque l'œuf peut éclore de façon spontanée, comme vous le constatez si bien avec le fou, mais il faut encourager ça. Parce que c'est ça, en réalité, l'embryon de l'économie nationale. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Parce que ce que nous vivons...
Voilà pourquoi le gouvernement veut construire un poste frontalier pour encadrer.
Je suis d'accord avec l'intervention du gouvernement, mais l'intervention dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsque vous voulez sanctionner, soyez capable de sanctionner et positivement et négativement. Lorsque vous voulez lever l'impôt, soyez capable de favoriser l'activité qui permettra à l'opérateur économique de vous payer son impôt, avec joie et avec amour d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'impôt, c'est un signe de patriotisme.
C'est impossible avec la multiplicité des taxes, la nomenclature qui n'est pas claire.
Mais c'est tout ça, là. C'est tout ça l'imbroglio que le gouvernement entretient, justement pour étrangler dans l'œuf un quelconque embryon de l'économie nationale. Et c'est là que je dis, il est bon, il est très bon, et ça, M. Matata a donné suivre de façon très claire et très nette, il est très bon que le gouvernement fasse preuve d'être le père de l'économie nationale, plutôt que d'être le bénéficiaire, j'allais mieux dire, à la limite indigne des fruits de cette économie, si on n'en a pas été à la base, si on n'en a pas été à la source. Il faut encourager. Je l'ai dit des millions de fois, l'État est capable d'encourager une économie nationale, notamment en donnant des marchés aux nationaux. Il ne le fait pas. Il donne des marchés publics aux étrangers, essentiellement. Et bien sûr qu'il y a des exceptions, comme on dit, les exceptions confirment la règle. Mais en général, quand il y a un marché de l'État, ma sous-traitance serait que quoi que ce soit, c'est que ça part aux étrangers. Lorsque le gouvernement lui-même doit acheter un produit pour son propre fonctionnement, il achète de l'étranger. Alors l'économie intérieure fait quoi? Le national, le citoyen congolais, il va vivre comment? Alors au lieu d'accompagner le citoyen congolais, de l'encourager, comme la Chine a fait avec ses citoyens, parce qu'aujourd'hui la Chine a tellement bien fait qu'elle nous exporte même ses chômeurs au Congo, et nous les accueillons à bras ouverts, ils deviennent des patrons chez nous. Mais qu'est-ce que l'État congolais fait en faveur des chômeurs congolais pour les stimuler à entretenir, entreprendre une activité économique? Il ne fait rien. Mais il attend que ces gens-là s'engagent d'eux-mêmes. Et par des multiples artifices pour que l'État se lève comme ça, comme par un coup de magie pour dire
tout à fait,
il y a l'impôt là-bas. Et là, je crois que c'est un opportunisme qui n'est pas généreux.
Voilà, on va passer de l'autre côté, on va aller passer de l'autre côté du standard avec Jules qui est à Sorololo. C'est d'ailleurs sur place là où les problèmes se posent. Maître Patrick Hachema Kinshasa, Victor Ambandangongo, 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Jules, vous nous avez rejoint dans ce débat. Vous êtes à Sorololo, plus précisément dans les encablures de Loufou, là où se tient ce marché qui fait l'objet de l'actualité à ces jours. Bonjour Jules. Jules, vous êtes avec nous?
Oui, je savais que vous vous écoutez.
Oui, vous avez la parole.
Bien. Moi, j'allais du faisceau. Je suis à 12 km de Louvre. Parfois, je pars là-bas pour visiter, observer tout ce qui se passe là-bas. Mais d'abord, je tiens à féliciter le gouvernement qui vient mettre des séries au secteur douanier de Louvre. Malgré qu'il s'est réveillé en retard, mais que voulez-vous? Le problème, c'est quoi? Les douaniers de Louvre se comportent comme des rois télé. Ils font ce qu'ils veulent, ils taxent comme ils veulent et comme ils veulent. Les policiers, ils taxent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des gens tenus civils qui demandent de l'argent, je ne sais pas, ils veulent du tout. De ce côté-là, nous demandons au gouvernement de mettre un peu de sérieux au secteur douanier de Louvre, comme chez les Angolais. Allez-y voir chez les Angolais, nos voisins les Angolais, que nous taxons à tout moment, qui sont des gens qui n'ont pas étudié. Mais allez-y voir ce qu'ils font là-bas, il y a du sérieux. Mais nous qui avons étudié, qui avons fait des universités, de quel niveau, allez-y voir les désordres de que Dieu a entretenu là-bas. Deuxième point, je voudrais demander à notre gouvernement de contrôler les denrées alimentaires qui entrent à Louvre. Moi, je dis ceci. Sur 100% des denrées alimentaires qui entrent à Louvre, 99,9% sont impropres à la consommation.
Est-ce que vous avez... D'où avez-vous tiré les statistiques? Non, mais Gilles, soyons pragmatiques. D'où avez-vous tiré ces statistiques? Parce qu'il ne faudrait pas avancer des chiffres d'une manière aléatoire.
Écoutez, je sais ce que j'ai dit.
Quel est votre chiffre d'information?
Je sais ce que j'ai dit.
99,9. C'est quand même exagéré, Gilles. 99,9, je crois que tout celui qui a déjà consommé les biens de Loufou, je crois que dans les jours à venir, nous allons compter des morts.
Laissez-moi terminer. Je vais vous donner l'exemple.
Oui, allez-y.
Prenez les poissons salés qu'on appelle ici communément les kamantengi, sous forme de makwala. Allez-y voir comment on l'étale, comment on vend. D'abord, on vous dit 6 poissons pour 1000 francs. Du fait que nous sommes très pauvres, nous prospectons à aller acheter ça. Et si vous arrivez là-bas, faites un tour un jour. Alors, je vais vous amener là-bas.
Alors, qu'allez-vous dire, juste? Oui, qu'allez-vous dire exactement? Parce que il y a quelques temps, la machine à laver était quand même un luxe, hein, à Kinshasa. Aujourd'hui, s'il faut compter 10 ménages, vous aurez peut-être 6 qui en possèdent, à un prix peut-être pas très cher. C'est grâce à Loufou.
Ouais, c'est grâce à Loufou. Mais, vous savez qu'il y a même des dates et des péremptions qui sont changées sur place.
Aux yeux
nus, les gens qui sont censés contrôler ces histoires-là.
Voilà, si je comprends bien, vous ne faites pas pour
moi. Allez-y-moi, ce qui se passe là-bas. Je vous donne encore un autre exemple.
Oui, allez-y.
Un sac de riz qui coûte 13 000 francs congolais. Alors, de quel état? La cause de notre pauvreté exagérée, allez-y, les gens prospectent pour acheter ça. Vous voyez? Et tout ça aux yeux nus. Des gens qui sont censés de contrôler cette histoire alimentaire-là.
Voilà, donc, voilà.
Il faut que le gouvernement ouvre tellement l'œil.
Et c'est bon. Voilà.
Raison pour laquelle. Il y a des bombes à retardement qui peuvent manger ça aujourd'hui, mais c'est pas
demain.
Dans une semaine, vous allez tomber malade.
Après
des années.
Merci beaucoup, Gilles. Merci.
Moi, je sais ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que je vous dis que descendez à Loufou, faites les constats. Et vous allez rentrer dessus. Prenez une boîte de conserve qui coûte 500 francs.
Voilà, je crois que vous avez arrêté de donner des exemples. Nous allons continuer les débats. Merci Gilles, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné des témoignages de terrain. Voilà, ça va nous servir quand même à avancer dans ces débats. Maître Papi, non, on va prendre Victor qui est en Bas-Congo. On reste encore dans le Bas-Congo. Peut-être qu'il y aura une autre lecture aussi par rapport à cette question. Victor, vous êtes en Bas-Congo. Bonjour Victor.
Ouais, bonjour aussi à Michel Sauvin. Je pense que
il y a un problème très
sérieux. D'abord, Loufou ne date pas d'aujourd'hui. Et déjà, vers les années 89, Loufou recevait déjà des véhicules, des centaines de véhicules, vers les années 89-90. Alors, c'est malheureux que l'État se réveille aujourd'hui. Mais le problème de Loufou, ça démontre à suffisant simplement que l'État, quand on dit la restauration de l'autorité de l'État, sincèrement, moi, ça me fait rire, parce que je me demande où est-ce qu'il est cet État. Et Loufou l'a démontré. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, si nous voulons réellement avoir de l'argent dans le trésor public, il nous faut, c'est le modèle qu'on vient de voir. Mais aller à l'aéroport international d'Ndjili, je voyage régulièrement, et quand je suis à l'aéroport d'Ndjili, je vous assure que ça me fait des larmes aux yeux quand je vois comment nos amis de la douane et nos amis de la police, de l'armée, travaillent à Ndjili. Donc, nous faut mettre un paravent, mais en réalité, si l'État a besoin d'argent, il doit d'abord aller le chercher, mettre d'abord de l'ordre, qu'il soit vraiment un État, mettre de l'ordre dans les usines, dans les industries, aller récupérer les 600 millions de dollars qu'ils prennent avec le pétrole de l'Angola, et voilà, l'État aura de l'argent. Et payer alors, payer ses enseignants, payer ses fonctionnaires comme il se doit, de façon qu'ils n'aillent pas acheter n'importe quoi à Lufu. Donc pour moi, Lufu, c'est vraiment la honte que l'État se réveille en retard. Mais prenez les dispositions, puisque vous parlez de douane, de frais, de douane, Michel, c'est bien. Quand on parle aujourd'hui de l'ouverture, de l'ouverture de frontières avec le libéralisme, mais dans le monde, avec l'organisation mondiale du commerce, les taxes douanières doivent tendre vers zéro dans les 10 années, les 15 années à venir. Et sans douane, de quoi est-ce que nous allons vivre? Tout nous devons produire dans notre pays, et c'est ce qui manque, Gère.
Voilà, merci beaucoup Victor. Pour vous, c'est que l'État a plusieurs mécanismes pour en fait récupérer et gagner dans les trésors publics. Lufu, c'est un cas, mais il y a d'autres cas qui ressemblent à Lufu ailleurs qui pourraient en fait aider l'État à gagner beaucoup d'argent. Mais vous avez également posé un problème, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a un Lufu, demain il y en aura un autre, il faudrait d'abord améliorer les conditions sociales des populations. Cela pourrait nous éviter toutes ces manœuvres et des fraudes ou encore des évasions fiscales à Lufu ou encore ailleurs. Merci beaucoup, Victor. Maître Papi Tachema, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Hichir. Bonjour aussi à l'invité, à tous les autres de Radio Papi.
Vous avez la parole, Papi.
Oui, merci beaucoup. Je suis content de la création ou de l'installation des postes des douaniers à Lufu, donc à la frontière congolo-rwandaise. C'est plutôt angolaise. Monsieur Giel, comme tout le monde, il faut seulement en être d'accord. Mais moi, je crois qu'il faut voir les problèmes en amour. Premièrement, il faut que les effets de la création ou de l'installation de ces postes douaniers soient rétroactifs. C'est-à-dire quoi? Donc, le gouvernement doit d'abord chercher ceux qui ont récupérer l'argent de l'État dans l'informel. Parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez la majorité des Congolais qui seront à Lufu, ils vous diront, M. JR, qu'ils payent beaucoup de taxes. D'ailleurs, ce ne sont pas des taxes parce qu'une taxe doit avoir un fondement juridique. Mais il y a certaines sommes d'argent que ces gens-là payent qui n'ont même pas de fondement juridique, qui n'ont même pas de soubassement légal. Alors, l'État doit faire de sorte qu'avant de créer ces postes-là, qu'ils puissent d'abord sanctionner ceux qui ont participé à cette fraude fiscale. Parce que, M. Gilles, vous savez comme nous que ces postes-là ne seront pas les premiers postes douaniers que l'on puisse connaître en République démocratique du Congo. Donc, si on ne prend pas cette question-là au sérieux, on risque
Voilà, merci beaucoup, Papi. On a le poste de Lufu, on a Kayemba, on a Kasumbalesa, vous ne voulez pas citer d'autres, si nous allons à Kasseni, et d'ailleurs à Kasseni, c'est tout un passoir. Vous y allez, vous trouverez les commerçants congolais qui vont en Ouganda sans contrôle, et les douaniers qui sont dans cette partie du pays se comportent, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, des rois télé, ils mettent tout dans leur poche, et finalement ça échappe au trésor public. Voilà. Donc il faut organiser, il faut vraiment réglementer et prendre une décision d'une manière un peu générale pour sécuriser nos postes frontaliers qui sont pratiquement, comme on l'aime toujours le dire, les frontières qui sont poreuses. Mais bon, peut-être les termes sont trop forts. Il faut aller au-delà de cela pour réellement sécuriser là pour les populations riveraines. Merci beaucoup. Simon Silo, nous, on va terminer cette série de auditeurs avec vous avant de revenir à notre invité. Vous êtes à Matadi, toujours au Congo central. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs qui vous suivent. Ma crainte réside d'abord, avant de les poser, je voudrais un peu et demander à l'invité, parce que la Constitution, l'article 204.9, je crois, si j'ai encore le texte en tête, dit que sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de la province. Et le point 9 dit ceci. L'organisation du petit commerce frontalier. Alors, je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas trop. L'organisation du commerce frontalier, c'est une matière exclusive à la province. Bon, quand je vois le gouvernement central venir, bon, je ne sais pas trop. Mais la crainte, c'est quoi? Il va falloir que le gouvernement gère bien ce problème, surtout en cette période ici, où la population a semblé trouver gain de cause. Parce qu'il vous souviendra, le sac de ciment qui revenait à 40 dollars, aujourd'hui c'est à 10 dollars, mais à Loufou c'est moins que ça. Le riz qui était vendu à 40, 50 dollars, aujourd'hui c'est 20, 30 dollars. Et la population aujourd'hui, qui achetait un verre de riz à 5 000, 6 000 francs, aujourd'hui elle l'achète 3 à 500 francs. Et le sachet du sucre qui revenait à 6 000, 5 à 7 000, aujourd'hui à 5 000. Sur le plan population, on semble trouver un gain de bénéfice. Est-ce que le gouvernement central, en venant instituer les douanes, ça ne va pas créer une malaise, ça ne va pas créer une sorte d'incompréhension entre la population pour laquelle les autorités nationales sont censées qu'elles soient aimées par elles, qui verra que les riz qu'ils achètent facilement augmentent les prix? Est-ce que ça n'aura pas ça? Parce qu'il va falloir régulariser tout ça. Et puis je répète très bien, parce qu'il ne faille pas aussi que l'entreprise locale puisse perdre, puisque déjà si nous, si nous, si créer cause déjà des problèmes par ces marchés de l'ouf. Mais ce qu'il faudra faire, la réglementation par rapport au trafic d'influence qui règne au niveau Loufou, qui échappe parfois aux autorités provinciales, parce qu'il y a des gens qui font ce trafic d'influence pour sortir des choses et pour faire des choses à leur manière. C'est ce qu'il faudrait peut-être réglementer. Et puis, voir aussi, bien payer nos sociétés, parce que depuis un certain temps, nos sociétés vivent.
Pour travailler sur la qualité des biens importés. Merci beaucoup, Simon Siloulou, d'avoir appelé 081-893-315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Michel Somoué. Nous avons suivi cette série des auditeurs. Les avis sont partagés. Il y a d'aucuns qui, au fait, sont favorables par rapport à cette décision du gouvernement pour dire qu'il faut réglementer, il faut, au fait, mettre fin à ces désordres qui règnent sur place avec des produits propres à la consommation qui passent sans contrôle de l'OCC. Il y a, de l'autre côté, cette manœuvre dilatoire de pouvoir mettre de l'argent dans les poches dans les chefs de certains agents douaniers qui opèrent sans, disons, faire rapport à qui que ce soit. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a pas mal d'inquiétudes, mais il y a une autre partie qui soutient quand même que ça permet à la population d'avoir un pouvoir d'achat par rapport à cette importation. Alors, quelle est votre réaction, Michel?
Je vous ai dit d'entrée de jeu, GR, que l'OFO est une véritable nébuleuse. Je vous ai dit. Je ne suis pas étonné que les avis soient partagés, soient ainsi partagés entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais ce qui est vrai, c'est que si nous mettons de l'ordre dans nos pensées, nous comprendrons bien comment il faudrait organiser les choses. Je répète qu'il est bon que l'État mette de l'ordre dans toutes les choses. Il est bon que l'État ouvre un poste frontalier organisé. Il est bon, je l'ai dit. Mais je dis aussi qu'il est beaucoup mieux que l'État commence par stimuler l'activité économique, encourager ceux-là qui sont à la base de la création d'une véritable économie nationale. Je vous ai dit aussi que ce que je crains, moi, c'est que l'État ne soit en train d'agir qu'en faveur de ceux qui craignent que la dynamique de l'UFO ne puisse barrer la route définitivement aux intérêts étrangers dans ce pays. C'est ce qu'il faut craindre. On a parlé du lobby asiatique. Il faut bien clarifier les choses. D'un côté, il y a des agents de l'État. Et de l'autre côté, il y a des opérateurs économiques et des consommateurs congolais. Lorsque moi, j'interviens en faveur de ces opérateurs économiques congolais et en faveur des consommateurs congolais que je ne voudrais pas laisser à la merci de l'escroquerie de qui que ce soit. Mais il y a des agents de l'État. Il n'est pas mauvais que le Premier ministre, que le gouvernement central ou le gouvernement provincial discipline de ces agents. Parce qu'en fait, c'est ça l'État dont je parle. C'est eux qui sont en train de rançonner. C'est pas le Premier ministre qui va aller bouffer l'argent des opérateurs économiques à l'UFO. Ce sont ces agents que lui a affectés là-bas. C'est l'UFO, ce qui est encore plus suspect, c'est ce que vient de faire la pertinente intervention de...
Et du corps des passants
de monsieur de Matadi, je crois.
C'est celui qui
appelle ici la Constitution, parce que c'est la Constitution.
L'article 204, en fait,
exactement. Et qui
matière exclusive de province, les commerces frontaliers.
Bon, on dit en droit aussi qu'il fait qu'il peut le plus, peut le moins. Donc, il n'est pas dit que parce qu'on a laissé la matière aux provinces, le Premier ministre doit fermer l'œil. Parce que c'est justement ce que nous avons reproché au Premier ministre il y a peu, lorsqu'on a parlé de la taxe GOPAS, en disant que c'était de la compétence exclusive de la RBA qui n'avait pas à s'en mêler. Alors, mais je ne voudrais pas changer le point de vue en disant non, le Premier ministre doit avoir l'œil ouvert sur tout ce qui se passe dans ce pays, parce qu'après tout, c'est le chef du gouvernement. Et le gouvernement provincial dépend aussi quelque part, relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur, qu'on le veuille ou pas. Donc le Premier ministre a le droit tout à fait de regarder ce qui se passe à l'UFO comme il regarde ce qui se passe à Kasumbalis et ailleurs. Mais le problème reste celui de l'organisation de l'économie nationale et de la prise en compte des intérêts locaux, des nationaux. C'est là qu'il y a le problème. C'est vrai, je dis que c'est une nébuleuse parce que ce qu'a dit M. Jules, qui se passe à l'UFO, en dénonçant l'existence des produits périmés de mauvaise qualité, ce n'est pas exclu. C'est ça, c'est parce que nous sommes dans un système, comme je dis, dans une économie de débrouillez-vous, de sauve qui peut, de sorte de jeunes. C'est ça aussi la dynamique de l'économie informelle. Et dans cette dynamique, il faudrait qu'on définisse aussi la part de l'État, la responsable de l'État. C'est là que je dis, au lieu de se presser d'aller ouvrir un poste frontalier tout de suite, l'État aurait dû comprendre aussi son rôle quant à ce qui pousse les Congolais à accepter des produits de mauvaise qualité. C'est notamment le fait qu'il n'y a pas d'emploi. Et l'État ne fait rien par rapport à cette question du chômage. Je dis bien rien, qu'on ne raconte pas des histoires. C'est la question du pouvoir d'achat de la population. L'État ne fait rien en faveur du pouvoir d'achat de la population, en commençant par ses propres agents, ses fonctionnaires et autres, qui sont très mal payés, et l'État le sait. Mais ça, l'État sait très bien, M. Matata sait très bien que le fonctionnaire est très mal payé, il sait très bien que le militaire est très mal payé, que le médecin congolais est très mal payé. Alors, mais il veut qu'il consomme comment? Et comme il y a un commerçant, c'est quelqu'un qui fait profit sur la condition humaine de l'autre, il sait bien que celui-ci qui n'a pas d'argent, il faut lui donner la nourriture de mauvaise qualité, parce que tout comme ça, il va le mettre dans son ventre. Et il pourra soigner ne plus que la quantité au lieu de la qualité. C'est un problème. Donc c'est une responsabilité totale de l'État que les Congolais consomment des produits de mauvaise qualité. C'est une responsabilité totale de l'État parce que c'est une question de bonne gouvernance économique. Qui voudrait qu'on mette en valeur le potentiel économique énorme que Dieu a mis sur notre planète, sur la partie de notre territoire national, pour que le Congolais soit en fait un mini paradis terrestre, mais qu'on laisse tout ceci comme ça, gratuitement en train de s'envoler sans rien rapporter comme économie au Congolais lui-même. L'eau, le feu, l'air, les minéraux, tout ce qu'on a, tout ce que Dieu a mis sur cette terre ici, ça ne profite pas au Congolais. Alors que ça devrait contribuer à la meilleure pouvoir d'achat et qui pousserait le Congolais à avoir la meilleure consommation de la meilleure.
Michel Somoy, on sait tout de même que le gouvernement congolais a signé plusieurs accords avec l'Angola, comme il a fait également avec d'autres pays frontaliers. notamment le Congo Brazza ou encore la Zambie, dans le cadre de libre-échange commerciaux, des personnes et de leurs biens. Alors, à ce jour, est-ce qu'on peut dire que le problème de Lufu peut être également réglé dans ces accords-là qui ont été signés? Parce que construire un poste douanier, est-ce pour répondre à certains dispositifs, des règlements ou des accords avec l'Angola? Ou peut-être, bon, je ne sais pas, c'est, quel est le sous-bassement juridique?
Non, il y a des accords internationaux qui sont naturels, il y a des accords qui régissent le commerce international dans tous les pays du monde. Que l'État ouvre un poste frontalier, je crois que c'est un accord, une volonté de l'État d'organiser mieux ce système de flux internationaux de marchandises. C'est tout à fait normal qu'on sache qui est qui et qui fait quoi à la frontière. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut dire que ça existe. Bon, comme a dit Victor Nzuzi, je ne suis pas en train de dire pas votre opinion, mais c'est comme a dit Victor Nzuzi, nous ne devons pas oublier que le même État est en train de négocier, de progresser vers la mise en place d'un marché commun africain, c'est-à-dire une zone exempte de tout droit de douane. Et donc, il ne faudrait pas que l'État congolais donne l'impression qu'il fait une démarche au contraire, en voulant renforcer le système douanier par-ci par-là, le système de protection, en fait. Parce que la douane signifie simplement, purement et simplement, un système protectionniste. C'est à ça que sert la douane, c'est un système de protection des intérêts locaux. Mais malheureusement, dans le cas qui est le nôtre, c'est une douane qui joue au sens inverse des intérêts des nationaux. C'est là le problème. Donc, nous devons plutôt nous engager dans la dynamique de renoncement aux droits de porte. C'est-à-dire dans la dynamique de baser nos ressources intérieures sur le fonctionnement de l'économie interne, sur la fiscalité interne, non pas sur les droits de porte. Mais c'est l'effort qui reste à fournir par l'État. Mais pour que cet effort puisse produire des effets, il faudrait que l'État congolais soit capable de capitaliser toutes ces dotations naturelles dont nous jouissons, dont bénéficions notre pays, de la simple bonté de Dieu pour le Congo. Il faudrait que l'État aide le Congolais à mettre ce potentiel en valeur pour que le Congolais produise une richesse effective, consommable, palpable, visible. Pour qu'on ne continue pas à nous faire croire que pour que le Congolais consomme de l'eau potable, il faut attendre 2030, alors que l'eau du fleuve Congo est ici à côté. Il ne faudra pas que l'État continue dans cette logique de faire croire aux Congolais qu'il ne sera mieux qu'en 2050, en 2030, quand le Congo sera émergent, alors que le cuivre congolais est là. Aujourd'hui, il est en train d'être consommé aujourd'hui par les Chinois, par les Américains, tout ça. Le cobalt congolais continue à fabriquer des engins spatiaux pour les Américains jusqu'aujourd'hui. Le pétrole congolais, l'Angola en profite à tout instant. Pourquoi nous, on doit attendre 2030 pour que le Congolais émerge la valeur de ce qui est sous son sol et qui est sous son atmosphère, sa stratosphère, etc. C'est là qu'est la responsabilité de l'État.
Alors, si vous permettez, messieurs les chefs, on va prendre la dernière série des auditeurs avec professeur Ignace Dalla-Colevi et Jean-Paul Kintabouete et Bénin Kinshasa. Professeur Ignace, bonjour.
Bonjour JR, bonjour notre invité Michel Sommoin, à qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai fait d'abord mienne ces analyses. Je voulais simplement dire ceci, c'est que le sujet d'aujourd'hui relève la problématique de la gestion du secteur informel, comme il a dit, même si on ne peut pas éradiquer tous les secteurs informels, mais au moins l'État a le grand rôle de réduire sensiblement cette situation, parce que l'impact est beaucoup plus négatif. Alors, je voudrais rappeler aussi que ça tombe bien par rapport à la situation que nous connaissons de démembrement de provinces, c'est que l'État devrait être très 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 regardant par rapport à la gestion de nos frontières. Il y a trop de sorties sur nos frontières. Je suis ici dans la province du Lualaba, je vous donne quelques exemples. Quand on voit Bilolo tel que la douane est organisée, c'est encore à plaindre, il y a encore des situations qu'il faudrait réorganiser. Quand on prend Solwezi, ici à Kolwezi, à l'entrée sur Zambie, Solwezi, du côté Mutatia, il y a une entrée, il y a du côté Kassamaya, partout là dans le territoire de Kapanga. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je voudrais beaucoup plus que notre État, dans sa mission légalienne, puisse réfléchir davantage et créer ce que moi j'appelle des zones économiques le long de nos frontières, c'est-à-dire des zones à proprement parler où l'échange se ferait correctement. Alors là, ça relève un autre aspect, une autre problématique. Nous devons encourager
encourager la production locale. Parce que lorsque nous créons ce genre de zones, le long des frontières, il est ridicule, permettez-moi l'expression, de constater que nous allons beaucoup plus importer qu'exporter. Qu'est-ce que ces zones-là, quand vous allez à Kasumbalesa, le marché congolais est confondu au marché indien parce que les produits qui se trouvent sur notre marché sont des produits que les Congolais vont prendre en Zambie. Nous n'amènent rien. Nous devons nous battre pour encourager la production locale, sinon c'est nous qui allons enrichir toutes les nations qui sont le long de nos frontières. Voilà un peu ce que moi j'ai.
Voilà, je crois que c'est cela le fait boomerang. Si jamais les Congolais importaient aussi des choses à l'Angola, je crois que ça allait être quand même équilibré, on n'aurait pas eu ces genres de réactions. Mais le fait d'importer tout de l'Angola, ça pourrait déranger les lobbies, comme nous l'avons dit, qui, au fait, ne trouvent plus leur intérêt, parce que, bon, finalement, les mêmes produits vendus par un commerçant asiatique, les produits qui étaient importés de l'Angola, je crois que les prix, les gens préféraient acheter à un prix bas que le produit venu de l'Angola, que celui venu par exemple de la Chine ou d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur Ignace Ndala, d'avoir contribué dans cette émission depuis qu'on le dit. Alors, Jean-Paul, vous êtes à Kintamboué. Bonjour, Jean-Paul.
Oui, bonjour, bonjour, JR. Je salue également votre invité, à qui j'ai beaucoup d'estime en tout cas.
Vous avez la parole, Jean-Paul. Vous êtes à Kintamboué. Kintamboué, c'est à combien de kilomètres de Lupu?
Je crois bien que vol d'oiseau, c'est plus ou moins 40, hein, 40
km. 40 km, vous avez quand même une idée de ce qui se passe là-bas.
Exactement.
Voilà. Alors, quel est votre point de vue par rapport à la thématique?
J'aimerais donner une certaine précision, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Moi, j'aimerais dire d'emblée, il n'y a pas fraude comme telle. Parce que les douaniers qui sont affectés aux frontières, si vous voulez bien, ils travaillent sur base de mercurial qui existait. C'est-à-dire, tous ces gens que vous voyez qui sont à Lufu, on les appelle des petits importateurs occasionnels. Ce sont des gens qui se retrouvent dans telle ville, dans telle cité, telle ville de Luanda.
Qui n'ont pas de commerce, des réseaux de commerce.
Ils savent que le vendredi, il y a marché. Donc, quelqu'un vient avec 10 sacs, l'autre vient avec 50 boîtes, l'autre vient. Et les douaniers qui reçoivent ces gens d'importateurs, ils taxent en fonction de mercurial qui existait. Donc, au niveau de la douane, les douaniers n'importent pas de calcul. Donc, lui, ne fait que reproduire ce que la douane a déjà fixé comme fixation, comme tarif. Comment calculer tout ça? Ça se passe comme ça. Mais si aujourd'hui on parle de fraude, et il faut qu'on se pose la question de savoir qui est en train de commettre la fraude. Ce sont les douaniers ou ce sont les petits importateurs qui ne savent même pas comment ça se passe.
Les importateurs de fortune qui viennent d'un moment et puis ils disparaissent, hein, parce que le marché.
Oui, donc ce sont des importateurs occasionnels. Donc ce sont des gens qui ne sont même pas réguliers. Ils font des bruits, tout ça.
Thomas, dommage, on pourrait peut-être vous laisser parler pendant longtemps. Le temps, c'est de prendre le Bénin. C'est vrai qu'il passe les mises. Je crois que nous, on va revenir quand on va construire encore ces postes de frontières, et puis bon, on reviendra pour en débattre. Bénin, vous avez pratiquement 40 secondes aussi avant que nous concluions avec notre invité. Bénin, vous êtes avec nous? Voilà, Bénin, vous êtes avec nous? Voilà, on aurait bien laissé peut-être notre ami de parler. Voilà, on est presque à la fin. On va conclure avec vous, je crois, avec la dernière intervention. Hein. Michel Sommoy, qu'est-ce qu'on peut retenir de Lufu? C'est vrai, le gouvernement est très déterminé de pouvoir mettre fin à la fraude, mais là, on vient d'entendre que la fraude, d'ailleurs, ce sont des commerçants occasionnels, ce n'est pas structuré, les gens n'ont pas des numéros de registre de commerce. C'est vraiment une nébuleuse. Hein.
Vous savez, finalement, je me demande si ce n'est pas le Congolais dans son ensemble qui est informel. Parce que si déjà nous sommes devant un État qui ne sait même pas donner une carte d'identité à son citoyen. Donc nous-mêmes, citoyens congolais, nous n'avons déjà pas une carte d'identité. Pourquoi on peut exiger à un commerçant congolais d'avoir forcément un registre de commerce? C'est comme ça que nous sommes une économie essentiellement informelle. Et peut-être même que l'État lui-même, s'il n'y prend garde, il est lui-même aussi informel, quelque part, il faut le dire. Le vrai État, je veux dire, hein, le vrai État congolais est informel. On ne le voit pas. Ce ne sont pas ceux qui commandent, qui sont, que nous voyons ou, en face de nous, qui sont vraiment les véritables commanditaire.
Le commanditaire, voilà.
Le vrai commandement se passe quelque part dans l'État lui-même qui est informé, nous le savons. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'ici, bon, c'est nous qui assumons l'autorité, c'est nous qui sommes passables. Mais ce qui reste à faire et qu'il faut faire absolument, c'est recréer notre État. Nous devons refonder l'État congolais. Le fonder conformément aux réalités de notre pays. Et le fonder dans la mission précise des dotations que Dieu a mises à la disposition du citoyen congolais. Et qui n'a pas mise à la disposition du citoyen américain ou du citoyen européen. Il faudrait que cet État-là existe et qu'il émane des ventres des Congolais. Des citoyens qui comprennent que nous devons rendre compte à Dieu un jour par rapport à ce qu'il a fait pour nous et que nous sommes en train de gaspiller continuellement, comme ça gratuitement la tête en l'air. Nous devons nous rendre compte, chaque jour qui passe, que Dieu nous a donné du gibier à notre disposition entière et que l'État nous condamne tous à consommer des eaux, consommer des chiens. Il n'est pas normal, Gérard, que dans ce pays, les citoyens congolais mangent les makoso, comme on appelle les pieds de porc, pendant que les chiens du blanc mangent de la chair de porc. Ce n'est pas normal. C'est là qu'il faut voir le rôle de l'État. Et l'État congolais doit être un État providence. C'est rien que ça que nous demandons à l'État. Être un État providence, ce n'est pas seulement être un État qui s'empiffre de l'extérieur, mais être aussi un État qui stimule l'activité intérieure, qui stimule l'offre et qui encourage la demande, qui crée le pouvoir d'achat. Voilà l'État qu'il nous faut dans ce pays pour que nous puissions un jour répondre à Dieu de sa bonté, de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il fait. Nous sommes tranquilles.
On va revenir peut-être prochainement lorsque ce poste douanier sera érigé. Nous disons merci à Michel Somoué, analyste économique, que nous recevons souvent, en tout cas pour éclairer l'intérêt des uns des autres par rapport à de différentes thématiques économiques. Nous sommes toujours au service de la nation.
Merci
beaucoup, Michel. Merci à Guy Mandangou et ainsi qu'à Julie César qui ont contribué à la production de cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous lundi prochain pour un autre numéro. Notez que nous allons débattre autour des consultations nationales pour les dialogues politiques qui ont été organisées par les chefs de l'État congolais au mois de mai dernier à Kinshasa. Alors, 3 mois plus tard, certains observateurs estiment qu'il est important qu'une date de la tenue de ces dialogues soit déjà annoncée et que ces assises se tiennent absolument avant les élections du gouverneur prévues pour le 5 octobre. Donc, vous pouvez déjà réagir pour cette thématique sur notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.